Le siège de Breteuil.
Le roi Jean nous reçut armés en guerre, comme s'il allait lancer l'assaut dans la demi-heure. Il nous baisa l'anneau, nous demanda nouvelles du Saint-Père, et, sans écouter la réponse un peu longue, dissertante et fleurie dans laquelle Nicolas Capocci s'était engagé, il me dit « Monseigneur de Périgord, vous arrivez à point pour assister à un beau siège. Je sais la vaillance qu'on a dans votre famille et qu'on y est expert aux arts de la guerre. Les vôtres toujours ont très hautement servi le royaume, et si vous n'étiez prince d'église, vous seriez sans doute maréchal à mon oste. Je gage qu'ici vous allez prendre plaisir. » Cette manière de ne s'adresser qu'à moi, et pour me complimenter sur ma parentèle, déplut au Capocci, qui n'est pas de très haut lignage, et qui crut bon de dire que nous n'étions pas là pour nous émerveiller de prouesses de guerre, mais pour parler de paix chrétienne. Je sus aussitôt que les choses n'iraient guère entre mon collégat et le roi de France, surtout quand ce dernier eut vu mon neveu Robert de Durazzo, auquel il fit force amitié, le questionnant sur la cour de Naples et sur sa tante, la reine Jeanne. Il faut dire qu'il était très beau, mon Robert, tournure superbe, visage rose, cheveux soyeux, la grâce et la force tout ensemble, et je vis poindre dans l'œil du roi cette étincelle qui, ordinairement, luit au regard des hommes quand passe une belle femme. « Où prendrez-vous vos quartiers ?» demanda-t-il. Je lui dis que nous nous accommoderions dans une abbaye voisine. Je l'observai bien et le trouvai assez envieilli, épaissi, alourdi, le menton plus pesant sous la barbe peu fournie d'un jaune pisseux. Et il avait pris l'habitude de balancer la tête comme s'il était gêné au col ou à l'épaule par quelques limailles dans sa chemise d'acier. Il voulut nous montrer le camp où notre arrivée avait produit quelques remous de curiosité. « Voici sa sainte éminence, Monseigneur de Périgord, qui nous est venu visiter, disait-il à ses bannerets, comme si nous étions venus tout exprès pour lui porter l'aide du ciel. » Je distribuais les bénédictions. Le nez de Capocci s'allongeait de plus en plus. Le roi tenait beaucoup à me faire connaître le chef de son ingénierie, auquel il semblait accorder plus d'importance qu'à ses maréchaux ou même son connétable. « Où est l'archiprêtre? A-t-on vu l'archiprêtre? Bourbon, faites appeler l'archiprêtre !» Je me demandais ce qui pouvait bien valoir le surnom d'archiprêtre au capitaine qui commandait les machines, mines et artillerie à poudre. Étrange bonhomme que celui qui vint à nous, monté sur de longues pattes arquées prises dans des jambières et des cuisseaux d'acier. Il avait l'air de marcher sur des éclairs. Sa ceinture, très serrée sur le surcot de cuir, lui donnait une tournure de guêpe. De grandes mains aux ongles noirs, et qu'il tenait écartées du corps à cause des cubitières de métal qui lui protégeaient les bras. Une gueule assez louche, maigre, aux pommettes saillantes, aux yeux étirés, et l'expression goguenarde de quelqu'un qui est toujours prêt à s'offrir pour un quart de sol la figure d'autrui. Et pourquoi fait le tout un chapeau de Montauban à large bord, tout en fer, avançant en pointe au-dessus du nez, avec deux fentes pour pouvoir regarder à travers quand il baissait la tête ? Où étais-tu, l'archiprêtre ? On te cherchait, dit le roi, qui précise à mon intention Arnaud de Cervol, sire de Vélines. « Archiprêtre pour vous servir, monseigneur cardinal, » ajoute l'autre d'un ton moqueur qui ne me plaît guère. Et soudain, je me rappelle, Véline, c'est de chez nous, Archambault, bien sûr, près de Sainte-Foy-la-Grande, aux limites du Périgord et de la Guyenne. Et le bonhomme avait bel et bien été archiprêtre, un archiprêtre sans latin ni tonsure, certes, mais archiprêtre quand même. Et d'où cela, mais tout naturellement de Véline, son petit fief dont il s'était fait attribuer la cure, touchant ainsi à la fois les redevances seigneuriales et les revenus ecclésiastiques. Il ne lui en coûtait que de payer un vrai clerc, au rabais, pour assurer le travail d'église. Jusqu'à ce que le pape Innocent lui supprime son bénéfice, comme toutes autres commandes de cette nature, au début du pontificat. Les brebis doivent être gardées par un pasteur. Ce que je vous contais l'autre jour. Alors, envolée l'archiprêtrise de Véline. J'avais eu à connaître de l'affaire entre 100 de même sorte, et je savais que le gaillard ne portait pas la cour d'Avignon au plus haut de son cœur. Pour une fois, je dois dire, je donnais pleine raison au Saint-Père. Et je devinais que ce Cervol n'allait pas lui non plus me faciliter les choses. L'archiprêtre m'a fait un fier travail à Évreux, et la ville est redevenue nôtre, me dit le roi, pour mettre en valeur son artificier. C'est même la seule que vous ayez reprise au Navarrais, sire, lui répondit Cervol avec un bel aplomb. « Nous en ferons autant de Breteuil, je veux un beau siège, comme celui d'Aiguillon. À ceci près que vous n'avez jamais pris Aiguillon, sire. »« Diantre, me dis-je. » »« L'homme est bien en cour pour parler avec cette franchise. »« C'est qu'on ne m'en a point, hélas, laissé le temps, » dit tristement le roi. Il fallait être l'archiprêtre. Je me suis mis moi aussi à l'appeler l'archiprêtre, puisque tout le monde le nommait ainsi. Il fallait être cet homme-là pour balancer son chapeau de fer et murmurer devant son souverain le temps, 6 mois. Et il fallait être le roi Jean pour s'obstiner à croire que le siège d'Aiguillon, qu'il avait conduit dans l'année même où son père se faisait écraser à Crécy, représentait un modèle de l'art militaire, une entreprise ruineuse, interminable, un pont qu'il avait ordonné de construire pour approcher la forteresse, et dans un si bon emplacement que les assiégés l'avaient détruit 6 fois. Des machines compliquées qu'on avait dû acheminer à grands frais et grande lenteur depuis Toulouse, et pour un résultat parfaitement nul. Eh bien, c'était là-dessus que le roi Jean fondait sa gloire et qu'il autorisait son expérience. En vérité, acharné comme il est à régler ses rancunes envers le destin, il voulait prendre à 10 ans de distance sa revanche d'Aiguillon et prouver que ses méthodes étaient les bonnes. Il voulait laisser dans la mémoire des nations le souvenir d'un grand siège. Et c'était pour cela que, négligeant de poursuivre un ennemi qu'il aurait pu battre sans beaucoup de peine, il venait de planter son trèfle devant Breteuil. Encore, s'adressant à l'archiprêtre, fort versé dans le nouvel usage des destructions par la poudre, on eût pu croire qu'il avait résolu de miner les murailles du château, comme on avait fait à Évreux. Mais non. Ce qu'il demandait à son maître de l'engénierie, c'était d'élever des constructions d'assaut qui permettraient de passer par-dessus les murs. Et les maréchaux et les capitaines écoutaient, pleins de respect, les ordres du roi et s'affairaient à les accomplir. Aussi longtemps qu'un homme commande, fût-ce le pire imbécile, il y a des gens pour croire qu'il commande bien. Quant à l'archiprêtre, j'eus l'impression que l'archiprêtre se moquait de tout. Le roi voulait des rampes, des échafaudages, des beffrois, eh bien on lui en construirait, et l'on demanderait paiement en conséquence. Si ces appareils d'autrefois, ces machineries d'avant les pièces à feu, n'apportaient pas le résultat escompté, le roi n'aurait à s'en prendre qu'à lui-même. Et l'archiprêtre ne laisserait à personne le soin de le lui dire. Il avait sur le roi Jean cet ascendant qu'ont parfois les soudards sur les princes, et il ne se gênait pas pour en user, une fois que le trésorier lui avait aligné sa solde et celle de ses compagnons. La petite ville normande se transforma en un immense chantier. On creusait des retranchements autour du château. La terre, retirée des fossés, servait à établir des plateformes et des pentes d'assaut. Ce n'était que bruit de pelles et de charrois, grincement d'essieux, claquement de fouets et jurons. Je me serais cru revenu à Villeneuve. Les haches retentissaient dans les forêts avoisinantes. Certains villageois des parages faisaient leurs affaires s'ils vendaient de la boisson. D'autres avaient la mauvaise surprise de voir soudain six goujats démolir leur grange pour en emporter les poutres. Service du roi, c'était vite dit. Et les pioches de s'attaquer aux murs de torchis et les cordes de tirer sur les bois de colombage, et bientôt, dans un grand craquement, tout s'écroulait. Il aurait bien pu aller se planter ailleurs, le roi, plutôt que de nous envoyer ces malfaisants qui nous ôtent nos toits de dessus la tête, disaient les manants. Il commençait à trouver que le roi de Navarre était un meilleur maître et que même la présence des Anglais pesait moins lourd que celle du roi de France. Je restai donc à Breteuil un morceau de juillet, au grand dame de Capocci qui aurait préféré le séjour de Paris, moi aussi, je l'eusse préféré, et qui envoyait en Avignon des missives pleines d'acrimonie où il laissait entendre fielleusement que je me plaisais plus à contempler la guerre qu'à faire avancer la paix. Or, comment, je vous le demande, pouvais-je faire avancer la paix sinon en parlant au roi? Et où pouvais-je lui parler, sinon au siège dont il ne paraissait pas vouloir s'éloigner? Il passait ses journées à tourner autour des travaux en compagnie de l'archiprêtre. Il usait son temps à vérifier un angle d'attaque, à s'inquiéter d'un épaulement, et surtout à regarder monter la tour de bois, un extraordinaire beffroi sur roues où l'on pourrait loger force archer, avec tout un armement d'arbalètes et de traits à feu, une machine comme on n'en avait point vu depuis les temps antiques. Il ne suffisait pas d'en bâtir les étages, il fallait encore trouver assez de peaux de bœuf pour revêtir cet énorme échafaud, et puis construire un chemin dur et plein pour pouvoir l'y pousser. Mais quand elle serait prête, la tour, on verrait des choses étonnantes.